Pour C, le traitement de signal sur les transformées de Fourier des signaux continus non périodiques et des signaux continus périodiques. Ce cours est en quatre parties. Tout d'abord, des exemples de signaux périodiques, puis un phénomène physique, les ondes stationnaires, avec l'apparition de raies de fréquence, la définition et les propriétés des séries de Fourier, la définition et les propriétés de la transformée de Fourier. Transparent 2. Ci-joint l'exemple d'un moteur et lorsqu'il tourne à une vitesse régulière de 3000 tours par minute, cela fait en réalité 50 tours par seconde, c'est-à-dire que chaque tour dure un cinquantième de seconde et que le bruit qu'il génère est un bruit avec des multiples des fréquences de 50 Hz. C'est donc un bruit relativement grave. Alors, d'autres phénomènes périodiques sont les clignotants ou les phares sur la mer, qui sont donc avec des périodes relativement longues de temps. Transparent 3. Le mécanisme d'un onde stationnaire, ici, il est visualisé avec un ressort qui vibre et ensuite une photo prise sur un intervalle de temps suffisamment grand pour voir l'évolution de la position du ressort. On observe que sur une distance donnée, suivant les conditions expérimentales, le ressort vibre de plusieurs façons différentes, avec parfois l'apparition de nœuds sur le chemin. Alors plus précisément, les ondes qui peuvent être faites sont des ondes stationnaires dans un tuyau d'air, sont en réalité la composition de deux ondes stationnaires avançant dans un sens opposé. En bleu, donc sur le schéma en haut à droite, en bleu, une onde progressive qui va vers la droite, en rouge, une onde progressive qui va vers la gauche, et la composition des deux forme un ensemble de surpression-dépression qui varie au cours du temps, mais sans varier horizontalement. Donc ceci n'est possible que pour des fréquences qui sont liées à la distance entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite de ce tuyau d'air. Les applications sont les flûtes traversières, voilà, pour lesquelles le son émis est directement lié à la taille de la flûte. Et lorsqu'on bouche un trou, on modifie la géométrie de l'instrument et on modifie de fait la fréquence. Les fréquences qui sont émises sont en fait des multiples d'une longueur d'onde. Et voilà. Transparent 5. Les notes de musique proviennent là encore de la vibration d'une plaque. Donc ça peut être de la vibration de l'air dans un tuyau, ou ça peut être la vibration d'une plaque métallique. Et on observe partout que ce qu'on entend comme étant une note, le C désigne le Do, le D désigne le Ré, ce qu'on entend comme une note est en réalité une succession de pics à des fréquences qui sont multiples de la fréquence de base. Et comme c'est un phénomène qui est très répandu, l'oreille entend et attribue à un son une note en fonction de la fréquence de la première fréquence de base lorsque toutes les autres sont des multiples de la première fréquence de base. Et la différence de timbre entre deux sons qui correspondent à la même note proviennent de la différence d'intensité des multiples de la note de base. Transparent 6, c'est l'exemple d'une trompette où on peut observer le spectre du son d'une trompette. Il s'agit de gauche à droite des spectres sur une même échelle de fréquence. Le fait que le spectre de gauche on lui attribue le Do relativement grave le spectre du milieu, le Do, à un octave au-dessus, et le spectre un peu plus à droite, le Do, à un octave encore au-dessus, provient essentiellement du fait que le premier pic s'est déplacé en fréquence d'un octave à chaque fois. Et tous les autres pics donnent une coloration au son qui est particulière. Dans le cas de la trompette, on a en plus ce phénomène particulier qui est que le spectre évolue au cours du temps et que lorsqu'on fait une moyenne au cours du temps, on obtient un spectre encore un petit peu différent parce que la suite du son se modifie. Transparence 7. Comment définir la série de Fourier pour un signal qui est périodique? Donc, on considère sur ce signal qui est périodique un extrait sur une période de temps donnée, et sur cet extrait, donc qui peut se noter x de t, entre t0 moins t sur 2 et t0 plus t sur 2, on multiplie x de t par une exponentielle complexe, exponentielle de moins j kt sur grand t. Donc l'indice k est n'importe quel entier négatif ou positif. Le coefficient grand t donc désigne la période de ce signal x de t. Le j est le coefficient complexe, c'est-à-dire que j au carré est égal à moins 1. Et en traitement de signal, la convention veut qu'on utilise la lettre j pour désigner la quantité dont le carré est égal à moins 1. Et donc, on fait une intégrale entre t0 moins t sur 2 et t0 plus t sur 2. Le résultat de cette intégrale est divisé par grand t, qui est justement égal à l'intervalle de temps sur lequel on a fait l'intégrale. Dans la mesure où on a utilisé une exponentielle complexe, il est naturel que le résultat de ce calcul est en réalité un coefficient complexe que l'on note grand x k. Alors, ce qu'on appelle la série de Fourier, c'est donc l'ensemble des coefficients complexes indicés par k que l'on peut calculer grâce à cette formule-là. Chaque coefficient correspond à un pic qui est à la fréquence kt sur grand t. Donc c'est la courbe du milieu qui représente ces différents pics sur la courbe. Alors c'est une courbe en trois dimensions parce que l'axe est horizontal et correspond aux fréquences. L'axe réel sur cette courbe est représenté par la profondeur et l'axe vertical correspond à la quantité imaginaire. Dans la mesure où la quantité est relativement symétrique et positive, il est naturel que le coefficient associé à k égale à 0 est réel et positif. Ce qu'on appelle le développement en série de Fourier, c'est la transformée de Fourier inverse, c'est-à-dire celle qui permet, à partir de l'ensemble des coefficients de la série de Fourier, de retrouver le signal x de t au départ. Elle s'écrit sous la forme d'une somme infinie de ces coefficients complexes grand x indice k, auxquels on multiplie par presque la même exponentielle complexe, à ceci près qu'ici il s'agit de l'exponentielle de j de pi kt sur grand t. Donc on retrouve la fréquence k sur grand t, on retrouve le fait qu'il y a un signe plus devant le j, parce qu'il s'agit de la transformée de Fourier inverse. Bien que les coefficients grand x k soient complexes, le résultat est a priori un signal réel. Voilà, c'est un signal réel. Alors, cette coefficient-là, on peut le calculer bien sûr entre t0 moins t sur 2 et t0 plus t sur 2, mais on peut le calculer en fait de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on trouve un signal qui est périodique, puisqu'il s'agit d'une combinaison linéaire d'exponentielles complexes, lesquelles sont toutes grand t périodiques. Alors, les propriétés de la série de Fourier sont que l'on peut calculer la puissance du signal périodique grâce à ses coefficients complexes. Donc il s'agit de la somme infinie des modulo carrés des différents coefficients complexes indicés par k. Ainsi, le modulo carré de ces coefficients complexes représente une décomposition de la puissance sur les différentes fréquences. Lorsque le signal S de t est retardé, on définit S' de t égale S de t moins t0, alors la série de Fourier est définie, les raies sont placées aux mêmes fréquences k sur grand T, mais le module des coefficients complexes n'a pas changé, seule la phase des coefficients complexes a changé, puisque S'K est multiplié par exponentielle de moins j de pi k sur grand T fois t0. C'est donc la phase de ces coefficients complexes qui a changé. En haut à droite, on observe que si le signal est réel, ce qui est en général le cas, alors les coefficients ont une certaine forme de symétrie, c'est-à-dire que le module des coefficients complexes est pair. Quand on passe de grand xk à grand x moins k, on trouve le même module. En revanche, la phase est impaire, c'est-à-dire que l'argument de x chapeau k est égal à moins l'argument de x chapeau moins k. La série de Fourier est un opérateur linéaire, c'est-à-dire que quand on multiplie le signal s de t par un coefficient a, alors les raies sont toutes placées aux mêmes fréquences k sur grand t, mais l'amplitude des coefficients complexes est multipliée par le coefficient a. La série de Fourier, voilà, est donc un opérateur linéaire aussi pour l'additivité, c'est-à-dire que quand on a deux signaux périodiques x de t et y de t, de période grand t, alors les coefficients complexes de la somme, z de t égale x de t plus y de t, est égal à la somme des coefficients complexes de x de t et de y de t, noté ici grand xk et grand yk. Si on dilate le signal, ce qui revient par exemple à dire s' de t égale s de t sur a, alors les coefficients complexes sont les mêmes, mais ils ne correspondent plus aux mêmes fréquences. En effet, lorsqu'on a dilaté le signal, on a modifié la période du signal, grand T' égale A fois T. Et on a modifié les fréquences où se trouvent les pics de fréquences, F'K égale FK sur A. Donc les fréquences, la période de temps s'est élargie lorsqu'on a dilaté le signal, mais la fréquence étant l'inverse de la période de temps, elle s'est rétrécie de la quantité du coefficient A. On a aussi un résultat sur l'intégrale. Si y de t est l'intégrale du signal x de t, alors on peut déduire le coefficient complexe de la série de Fourier de y de t à partir du coefficient complexe de la série de Fourier de x de t. Il suffit de diviser par j de pi k sur t. Ce résultat est à prendre avec quelques précautions, puisque y de t doit néanmoins être périodique. Autrement dit, pour que y de t soit périodique, il faut qu'en réalité l'intégrale sur une période de x de t soit nulle. On a un résultat correspondant pour la dérivation. Si x de t est la dérivée de y de t, alors le coefficient complexe de x de t est égal à j de pi k sur t fois grand y indice k. On observe que les deux formules se répondent l'une l'autre, puisque dans un cas on a divisé par j de pi k sur t, dans l'autre cas on a multiplié par j de pi k sur t. La deuxième formule est aussi à prendre avec précaution, puisqu'elle n'a de sens que si y de t est continue au début et à la fin, entre le début et la fin de la période, sinon on a des sauts qui s'ajouteraient au fur et à mesure. Alors les coefficients de la série de Fourier sont en fait une transformée de Fourier, et on peut les écrire différemment. Plutôt que d'écrire que la série de Fourier, c'est une collection de coefficients, on peut aussi écrire sous la forme d'une fonction, S chapeau de f, qui s'écrit comme une somme infinie de Dirac. Donc les Dirac sont situés aux fréquences où se trouvent ces raies, donc c'est-à-dire k sur t, et les coefficients complexes viennent multiplier cet ensemble de Dirac. De ce point de vue-là, n'importe quel signal périodique temps continu, qui peut donc se calculer avec une série de Fourier, admet aussi une transformée de Fourier qui est une somme infinie de Dirac. Présente ici trois exemples. Donc un signal constant peut s'interpréter comme un signal périodique d'une période symbolique grand 1. Tous ces coefficients complexes sont bien sûr nuls, puisque la courbe est constante, et que les exponentielles complexes, lorsqu'on les intègre, ils ont une primitive qui est périodique et qui donc donne 0. Et justement, si une série de Fourier a un seul coefficient complexe, eh bien son écriture sous la forme d'un spectre, d'une fonction qui dépend d'une fréquence, c'est en fait un seul Dirac. On peut donc en déduire que la transformée de Fourier de 1, c'est en fait delta de f, donc c'est le Dirac en 0, dans la fréquence nulle. Alors la transformée de Fourier de cosinus de pi f0t, c'est une somme de deux exponentielles complexes, et le résultat de dire que la transformée de Fourier c'est la moitié d'un Dirac en f0 plus la moitié d'un Dirac en moins f0, ce résultat se prouve en écrivant que cos de pi f0t est égal au développement de la série de Fourier en une succession de raies, et qu'on observe que 1,5 et 1,5 sont les deux coefficients bien adaptés à cet exemple-là. Alors pour la transformée de Fourier de 2f moins f0 moins 1 sur 2j delta de f plus f0, ça vient de ce que sinus de pi f0t est égal à 1 sur 2j exponentielle de j de pi f0t moins 1 sur 2j exponentielle de moins j de pi f0t. Définissons maintenant la transformée de Fourier. Donc elle s'applique à un signal qui est en continu non périodique. Donc l'équation, c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, auquel on multiplie une exponentielle complexe, qui est k série de Fourier, à ceci près, le k sur t est remplacé par un f. On a donc x exponentielle de moins j de pi ft, une intégrale de moins l'infini à plus l'infini. La transformée de Fourier inverse a presque la même formule, à ceci près qu'on l'applique à grand x de f, qu'on multiplie cette fois-ci par exponentielle de plus j de pi ft, et qu'on fait l'intégrale sur des fréquences et non plus sur du temps, le résultat nous donnant une quantité qui dépend du temps. Le résultat est représenté sur le graphique en haut à droite, où les réels, l'axe des réels est en profondeur, l'axe des fréquences est un axe quasiment horizontal, un peu de biais vers la droite, et la partie imaginaire est un axe vers le bas ou vers le haut. À la fréquence nulle, on retrouve une valeur relativement élevée vers la profondeur, et ensuite, à la différence des séries de Fourier où on avait une succession de pics, ici on a une courbe qui s'enroule progressivement autour de l'axe des fréquences. Alors le fait qu'elle s'enroule traduit le fait que lorsque le temps avance, la phase a tendance à tourner au fur et à mesure du temps. Donc on retrouve souvent des transformées de Fourier qui sont des spectres qui s'enroulent. En général, on est intéressé par le fait de représenter le module, c'est-à-dire ce qui correspond sur un graphe 3D à la distance entre l'axe principal et la courbe, ou on peut s'intéresser à représenter la phase qui représente l'angle de la courbe, d'un point de la courbe, l'angle en termes du plan vertical. Il y a un lien entre la transformée de Fourier et la série de Fourier d'un élément de la courbe. Alors il y a un lien à condition qu'on considère un signal qui est nul presque partout sauf sur un intervalle de temps et qu'on calcule la série de Fourier comme si ce signal qui est nul presque partout avait été périodisé. Et dans ce cas-là, il apparaît que la série de Fourier, les coefficients complexes, sont des coïncident, se trouvent sur la courbe, mais seulement dans les multiples des fréquences k sur grand T. C'est seulement à ces instants-là que les deux quantités sont égales à 1 sur t près, et la démonstration provient simplement du fait d'avoir restreint l'intégrale sur laquelle on calcule normalement la transformée de Fourier à l'intervalle sur laquelle x de t est non nul. Les propriétés de la transformée de Fourier, donc on peut parler de la parité, dans la mesure où x de t est un signal réel, alors la transformée de Fourier est égale à la quantité conjuguée de cette transformée en la fréquence moins f. Concrètement, cela veut dire que le module de la transformée de Fourier est symétrique, est identique que l'on parle de la fréquence f ou que l'on parle de la fréquence moins f, et qu'en revanche, l'argument est impair, c'est-à-dire qu'il change de signe lorsqu'on change le signe de la fréquence. La relation, dans la mesure où il s'agit d'un signal qui est en continu non périodique, c'est l'énergie qui est pertinente, et l'énergie de ce signal est égale à l'intégrale du modulo carré de la transformée de Fourier. On ne parle plus d'une somme, puisque la transformée de Fourier est ici valable pour toutes les fréquences. Lorsqu'on retarde le signal d'une durée T0, alors le module de la transformée de Fourier reste identique, mais la phase de la transformée de Fourier est modifiée, puisque la transformée de Fourier est multipliée par exponentielle de moins j de pi ft0. Lorsque l'on multiplie un signal s de t par une exponentielle complexe, exponentielle de j de pi f0 t, alors le spectre est déplacé d'une quantité moins f0. Alors cette propriété est souvent utilisée en multipliant par un cosinus de pi f0 t, qui est la somme d'un exponentiel j de pi f0 t et un exponentiel de moins j de pi f0 t. Voilà. Ce qui provoque le déplacement de la transformée de Fourier, d'un côté vers la droite en le décalant de plus f0, et de l'autre côté vers la gauche en le décalant de moins f0. Voilà. Cette relation est utilisée en modulation, en communication numérique. La transformée de Fourier est un opérateur linéaire, c'est-à-dire que quand on multiplie un signal par une quantité A, alors la transformée de Fourier est aussi multipliée par A. De même, lorsqu'on ajoute deux signaux temps continu non périodique x de t et y de t, alors la transformée de Fourier de la somme est égale à la somme des transformées de Fourier. Lorsqu'on dilate le signal, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à calculer la transformée de Fourier d'un signal S' de t égale S de t sur A, alors le spectre de la transformée de Fourier est concentré. Non seulement il est concentré, mais il est aussi amplifié, puisque la transformée de Fourier se calcule avec une quantité intégrale. Donc il est à la fois le A apparaît en multipliant la fréquence, pour décrire le fait que le spectre est concentré, et la quantité A multiplie la transformée de Fourier pour décrire le fait qu'on a amplifié. On a aussi des propriétés sur l'intégration et sur la dérivation. Donc la transformée de Fourier de l'intégrale d'un signal est égale à 1 sur j de pi f fois s chapeau de f. Donc ce qui ressemble à la relation qu'on avait déjà eue avec les séries de Fourier où on avait eu 1 sur j de pi k sur t. Ici on a 1 sur j de pi f. Il faut prendre une certaine précaution avec cette formulation-là, puisqu'il faut que le signal soit continu, qu'il ait une valeur finie lorsque S de t tend vers l'infini, sinon il va provoquer un problème en la fréquence nulle, ça n'aura plus de sens de diviser par 0. On va avoir un problème si on divise par 0 une quantité qui n'est pas nulle. On a aussi un résultat en prenant la transformée de Fourier de la dérivée d'un signal, où la transformée de Fourier est égale à J de pi f fois la transformée de Fourier du signal. Donc là encore, il faut faire attention à ce que tout ça, ça ait un sens, puisque la transformée de Fourier du signal en f doit être définie. Il ne faut pas qu'il y ait une discontinuité qui provoque l'apparition d'un Dirac. Donc ce sont des formulations à prendre avec précaution. Alors, le produit de convolution, on peut définir le produit de convolution entre deux signaux temps continu non périodique. Il est défini par la formule à droite, x de t étoile y de t est égal à l'intégrale de x de taux y de t moins taux. Et dans ce cas, la transformée de Fourier du produit de convolution de deux signaux est égale au produit des transformées de Fourier. De même, le produit de convolution des transformées de Fourier est égal à la transformée de Fourier du produit des signaux. Deux exemples de transformées de Fourier, donc celui qu'on avait déjà énoncé avec les séries de Fourier. La transformée de Fourier d'une constante est égale à cette constante multipliée par un Dirac. La transformée de Fourier d'un Dirac est égale à 1. La transformée de Fourier de cosinus de pi f0t est égale, comme nous l'avions dit précédemment, à 1/2 d'un Dirac en f0 plus 1/2 d'un Dirac en moins f0. La transformée de Fourier de sinus de pi f0t égale 1 sur 2j Dirac en plus f0 moins 1 sur 2j Dirac en moins f0. Une autre fonction que l'on utilise beaucoup en traitement numérique de signal, c'est la fonction, c'est une porte qui s'écrit grand 1 de l'intervalle moins t sur 2, t sur 2. C'est-à-dire que c'est une fonction qui vaut 1 pour t entre moins t sur 2 et t sur 2 et qui vaut 0 partout ailleurs. Cette transformée de Fourier-là est égale à un sinus cardinal, plus précisément sinus πft sur πf. Dans cette relation-là, on observe que lorsqu'on augmente l'intervalle moins t sur 2, t sur 2, c'est-à-dire lorsque t augmente, eh bien la transformée de Fourier augmente son pic en f égale à 0, qui vaut grand t, et diminue la largeur des lobes, qui vaut 1 sur t et 1/2 t pour les autres lobes, à part le lobe principal. À partir de la relation sur la transformée de Fourier d'une fonction porte, on peut en déduire la transformée de Fourier d'un cosinus tronqué, par exemple en appliquant la propriété sur le fait que la transformée de Fourier d'un produit de signaux est le produit de convolution des transformées de Fourier. En effet, la transformée de Fourier d'un cosinus, c'est une somme de deux Dirac, et la transformée de Fourier d'une fonction porte est un sinus cardinal, et le produit de convolution des deux nous donne la relation que nous avons, c'est-à-dire deux sinus cardinaux, l'un qui est en f0, l'autre qui est en moins f0, et la largeur de ces sinus cardinaux est réglée par le coefficient t, c'est-à-dire par la taille de la porte.